Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui, tous les samedis soirs, vous attend sur RMC après l'after. Et, comme vous le savez, c'est une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Alors, ce soir, je vais vous parler d'une vieille dame qui a quelques siècles. Et pour le faire, je vais recevoir Monseigneur Guillaume de Lille, qui est évêque auxiliaire de Meaux. Et qui est donc un peu en charge d'un jubilé d'une cathédrale, celle de Meaux, justement, qui fête ses
850 ans. Bonsoir.
Bonsoir. 850 ans, ça se fête, parce qu'elle en a vu de choses, cette cathédrale.
Elle en a vu, et les cathédrales qui l'ont précédée aussi, parce que le diocèse de Meaux, qui est un des diocèses de la banlieue parisienne, est en fait un vieux diocèse de la fin du IVe siècle.
Donc, seulement 4 siècles après la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
C'est ça, ouais. Exactement. Et là, on est... on a construit en 1175, à peu près, autant qu'on puisse le savoir, une nouvelle cathédrale gothique, parce que la précédente ne convenait plus, ou n'était peut-être plus tout à fait à la mode. Elle datait du Xe siècle. Elle existe encore pour partie sous la cathédrale actuelle. Et donc cette année, en fait, c'est 850 ans. Depuis, à cheval sur l'année 2025-2026, on a voulu profiter d'une année jubilaire paisible.
Exactement, parce que vous vous êtes un peu raccroché au train du jubilé de toute l'Église universelle.
Exactement.
En 2025, et vous avez continué pour le plaisir, voilà.
Voilà, c'est exactement ça. C'était un peu difficile dans le bruit du jubilé 2025, et Rome prend la première place, c'est normal, d'exister, et puis il y avait en même temps aussi la réouverture de Notre-Dame de Paris, qui est la sœur aînée. Hein. Il y a quelques années d'écart, exactement, entre les deux. Elles se suivent. On dit même que le portail nord de la cathédrale a été sculpté à Paris et transporté par bateau et monté comme un mécano à Meaux.
Et effectivement, les deux cathédrales, et aussi d'autres cathédrales un peu de la région, ont beaucoup de choses en commun, parce que elles ont vécu un peu une phase de transformation artistique, du gothique, on parle par exemple de gothique flamboyant, etc. Je suis absolument profane, mais est-ce qu'il y avait des choses qui s'en rappelaient?
En fait, en région parisienne, il n'y a que deux cathédrales gothiques. Parce que la cathédrale de Saint-Denis n'a pas été construite pour être une cathédrale.
Exactement.
Les cathédrales aujourd'hui, du fait du choix des années 60 de faire de Saint-Denis un diocèse. Mais elle s'inscrit, nos deux cathédrales, elles s'inscrivent dans le même mouvement gothique qui va enflammer la France et l'Europe d'ailleurs, hein, parce que vous alliez à Cologne, vous alliez en Espagne, c'est la même chose, hein, vous alliez à Milan, voilà, on retrouve les mêmes schémas.
Avec des maisons un peu différentes,
voilà.
Mais c'est vrai.
Mais une cathédrale, c'est jamais une unité de construction, à part celle de Bourges, qui est vraiment connue pour avoir été construite par suivie par le même architecte dans un temps relativement court. C'est souvent des siècles de construction, à Meaux en particulier, puisque la fin des gros travaux à Meaux, c'est 1540.
Oui, donc
c'est la fin du XVIe siècle.
On peut dire que c'est pas la vraie fin des travaux, parce qu'elle continue.
Ça continue.
Aujourd'hui,
c'est une dame qui a besoin d'être entretenue. Donc,
un peu comme Notre-Dame de Paris, naturellement, qui est bon à passer.
Voilà, si on avait les millions de Notre-Dame de Paris, ce serait parfait.
Bon, en même temps, elle les a eues parce qu'elle a eu un moment un peu compliqué. Mais justement, ce monument, cette église qui est, je le rappelle à nos auditeurs, une cathédrale, c'est l'église mère d'un diocèse.
Tout à fait.
Voilà. Donc, le diocèse est un morceau territorial, disons comme ça, de l'Église, où il y a un évêque, et d'ailleurs, l'évêque de Rome est le pape, parce que lui aussi est un évêque, et d'ailleurs aussi à Rome, il y a la mère, l'église mère de toutes les églises de Rome, qui est Saint-Jean de Latran, c'est pas Saint-Pierre, mais qui est aussi la mère de toutes les églises du monde.
La mère de toutes les églises, oui,
voilà.
Tout à fait.
Donc, c'est un concept comment on peut définir cette maternité, disons?
En fait, c'est lié à l'épiscopat, c'est-à-dire à l'évêque. L'évêque, c'est le successeur des apôtres. Et il a en charge, au fond, toutes les paroisses d'un diocèse. Elles n'existent que parce qu'il y a un évêque. Et les prêtres à qui on confie ces paroisses n'existent que dans le lien avec l'évêque. Et donc, d'une certaine manière, la cathédrale manifeste dans la pierre ce lien profond avec toutes les églises de pierre qu'il y a dans le diocèse. Et elle dit cette unité d'une communauté de foi, qui est aussi une communauté de destin, finalement, engagée à la suite du Christ, pour le moment venu partager la vie divine avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et le fait qu'une cathédrale soit l'église mère de tout un diocèse, ça explique aussi la beauté de ces églises qui ont été choyées pendant des siècles par les fidèles.
Oui, bien sûr, c'est le signe premier en fait d'un diocèse. Et donc ça explique l'engagement financier qui a dû être très important à l'époque, hein, pour construire un bâtiment qui voulait à la fois dire l'importance de l'Église, mais d'abord qui voulait dire la foi des gens et orienter tout le monde vers le ciel. Oui, à Meaux, la voûte, elle monte à 30 mètres. Et si on va au faîtage de la toiture, je crois qu'on est à 46 mètres, ce qui est quand même assez haut.
Et on n'avait pas des grues, on n'avait pas Internet,
on avait des grues, mais qui n'étaient pas nos grues motorisées d'aujourd'hui. Ouais. Heureusement qu'on avait des grues. Les Romains nous avaient appris ça. Ouais. Donc ça nous a été transmis, mais on faisait les choses avec plus de temps, plus de lenteur aussi.
Et avec pas d'intelligence artificielle.
Pas d'intelligence artificielle, naturelle. Mais l'intelligence naturelle de ceux qui imaginaient. Et testaient aussi leur imagination, parce que par exemple, à Meaux, ce qui a été construit en premier, c'est le chœur, comme dans la plupart des cathédrales. Et à un moment donné, il y avait dans les côtés du chœur, il y avait des tribunes. Ils ont souhaité supprimer les tribunes pour que les voûtes de ces bas-côtés montent plus haut. Et en enlevant les tribunes, ça s'est écroulé, donc ils ont recommencé. Donc, il testait en fait les choses au fur et à mesure de l'innovation, de la compréhension architecturale.
Et il découvrait quelque chose aussi.
Et il découvrait, exactement.
Step by step, comme on pourrait dire.
Exactement.
Une cathédrale est justement un rôle particulier, on l'a expliqué, parmi les églises d'un diocèse. Mais c'est aussi peut-être l'église vers laquelle s'oriente même des personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Comment ça vous arrive de voir aussi des personnes qui justement ne croient pas, mais qui ont besoin de se ressourcer et qui viennent à la cathédrale?
Tout à fait. Dans la cathédrale, tout le monde entre. Il y a des gens qui entrent pour allumer un cierge, des gens qui vont se poser parce qu'ils ont besoin simplement du silence. Il y a des gens qui entrent pour faire une prière, des gens qui demandent un service. Voilà. L'autre jour, j'étais sur le parvis de la cathédrale. Et on était en train de préparer des choses pour la galette des rois qui avait lieu sur le parvis à l'occasion de l'anniversaire des 850 ans. On avait fait une immense galette des rois. Et il y a un jeune adulte qui passe, qui nous demande s'il peut nous aider. Alors je lui dis oui. Il s'appelle Quentin, on discute. Et ce Quentin, il vient souvent le dimanche prier à la cathédrale, mais il n'est pas baptisé. Mais il entre dans la cathédrale, il se met dans le silence de la cathédrale. Et puis quand il y a la messe, il ne se sent pas tout à fait légitime, alors il sort. Et puis il m'a dit, je vais continuer dans le jardin Bossuet, là, qui est le jardin de l'ancien palais épiscopal, qui est vraiment à côté, et je continue à prier dans la direction de la cathédrale. Je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que ce garçon, son entrée dans la compréhension de l'Église, elle se fait par ce bâtiment, par ce qu'il représente, par le silence qu'il y trouve, la paix qui lui permet de se poser, simplement.
Et est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment particulier dans la cathédrale de Meaux qui a été justement créé par des sculpteurs, des artistes des siècles passés pour manifester l'un des aspects de la foi catholique?
Je veux dire, en fait, la particularité de la cathédrale de Meaux, c'est qu'il y a peu de choses dedans. Mmh. Il y a même peu de vitraux, du coup, elle est très claire parce que c'est le soleil qui l'inonde, parce que pour des raisons historiques, les vitraux ont disparu, et le peu de statuaire qui a traversé les siècles est très petit. Il y a un christolien. Il se trouve que au moment de la réforme, l'église a été saccagée par les protestants qui sont entrés, qui ont mis à sac la cathédrale, et du coup, beaucoup de choses n'ont pas poursuivi. Et quand on voit les portails de la cathédrale aujourd'hui, par exemple, beaucoup de statues sont décapitées.
Décapitées, oui.
Mais c'est dû à la guerre de religion. Aujourd'hui, on s'entend très bien avec les protestants de Meaux, il n'y a pas de difficulté. Et on n'a pas été meilleur d'ailleurs avec eux, parce qu'on les a brûlés en retour sur la place du marché.
Et enfin, aussi la Saint-Barthélemy.
Voilà, enfin, chacun avait son, avait son lot. Chacun avait son lot. Heureusement, aujourd'hui, on est sorti de tout ça et on est capable de prier ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Mais la cathédrale, elle reste vraiment dans la ville, voilà, ce signe fort. Alors, il n'y a pas d'œuvre artistique. Par contre, il y a un personnage qui attire le monde entier, qui est Bossuet, qui est enterré dans la cathédrale, qui est ce grand évêque du XVIIe siècle, et qui avait été le précepteur du roi Louis XIV, et dont on disait qu'il était le seul capable de parler au roi les yeux dans les yeux. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé l'aigle de Meaux, parce que vous savez, l'aigle, c'est l'animal, le seul oiseau qui regarde le soleil en face.
Oui.
Voilà. Et donc, Louis XIV, le roi soleil, eh bien, voilà, Bossuet pourrait le regarder. Donc, il y a une grande statue de Bossuet, même deux dans la cathédrale, mais qui ne sont pas d'un intérêt artistique extraordinaire, mais qui disent, voilà, qui rappellent en tout cas sa présence. Et ce qu'il nous a laissé, c'est aujourd'hui, c'est plutôt sa littérature, hein, la qualité de son français, à travers notamment ses oraisons, ses homélies, qu'on va bientôt remettre un peu en valeur, puisque à partir de 2027, on va rentrer dans les 400 ans de sa naissance.
Oui, donc vous passez d'un jubilé à l'autre.
On passera d'un jubilé à un autre.
Vous arrêtez jamais. Est-ce qu'il y a eu des saints qui sont passés par la cathédrale ?
Oui, d'abord une grande sainte qui est Sainte Geneviève, qui est connue de tous les Parisiens, Paris, voilà, puisqu'elle elle sauve Paris, hein, d'Attila, mais elle sauve Paris grâce aux terres qu'elle a dans le diocèse de Meaux. Et c'est un grenier à blé, la Brie, hein, et donc elle fait venir ce blé jusqu'à Paris. Mais Sainte Céline, par exemple, qui est une filotée de Sainte Geneviève, mais vous avez aussi un saint comme Saint Fiacre, qui est le patron des maraîchers, installé à côté de Meaux, Saint Pharon, qui est le grand évêque de Meaux. Vous avez aussi Saint Colomban, qui est cet Irlandais, hein, qui fait partie de cette vague de moines irlandais qui vont venir en France.
En Bretagne, après.
Oui, en Bretagne, il va aller jusqu'à Luxeuil-les-Bains, hein, donc vous voyez. Il va dans le...
Même en Italie, il y en a...
Et alors, il va finir sa vie en Italie. En fait, il va traverser l'Europe et il fait partie de ce groupe de moines irlandais qui veulent réévangéliser l'Europe après les grandes invasions où la foi avait été abîmée. Et donc, ils se ressaisissent de ça. Voilà, et grâce à lui, il y a plusieurs monastères qui sont nés dans le diocèse. Et puis, plus récemment, là, on vient d'avoir le 13 décembre dernier la béatification de l'abbé Maurice Rondeau comme martyr de l'apostolat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été incarcéré parce qu'il faisait de la résistance. Et de là, il a accepté d'être aumônier volontaire comme prisonnier auprès des travailleurs du service du travail obligatoire du STO. Et il y a laissé sa vie. Il est sorti des camps à la libération, mais il est mort tout de suite après. Donc on peut vénérer ces reliques qui sont dans la cathédrale.
Donc il y a aussi ces grandes âmes, ces grandes personnes qui sont passées avant par cette église. Une église qui, on l'a dit, a traversé les siècles et des siècles parfois que absolument pas facile. On a parlé des guerres des religions. Plus récemment, il y a eu les guerres mondiales. Il y a eu naturellement la Révolution française. Est-ce que vous pensez que cette cathédrale porte à elle aussi un message d'espérance?
Bien sûr, parce que telle qu'elle est construite à Meaux, en fait, elle est un peu en hauteur. Et quand on a Meaux, c'est dans la vallée de la Marne, et donc quand on arrive par le plateau, on descend sur Meaux et on voit cette cathédrale qui sort en fait. La ville de Meaux est vraiment mise en valeur par cette cathédrale. Meaux, c'est une ville gallo-romaine, hein, mais la cathédrale est au cœur. Et elle parle à tous les gens en fait. Quand il y a un événement national ou régional, les gens viennent à la cathédrale. Donc elle est, quelle que soit la religion, pour eux, elle est un signe fort. Je vois dans le dialogue interreligieux dans la ville, tous s'approchent de la cathédrale sans difficulté. Et pour eux, elle est importante. Elle est un signe. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de catéchumènes. Hein. On a eu au début là du carême l'appel décisif des jeunes Donc on a appelé au baptême avec Monseigneur Damias tous les deux. On a appelé 375 jeunes entre 11 et 19 ans. Et puis la semaine d'après, on a appelé 415 adultes au baptême. Donc vous voyez, ça fait presque 800 personnes qui seront baptisées là au temps pascal. Donc et tout ça, c'est dans la cathédrale. Donc c'est la cathédrale, elle est un poumon fort en fait de la foi localement, mais aussi pour tout le diocèse. Quoi.
Alors rapidement, parce que nous avons vraiment un peu moins d'une minute pour attirer tous les curieux vers la cathédrale de Meaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quels sont les rendez-vous qui auront lieu tout au long de 2026?
Alors tout au long de l'année, il y a régulièrement des concerts, il y en a au moins un par mois. Ils peuvent aussi avoir des visites guidées, l'Office du Tourisme suit ça très bien. Et quand il y a besoin d'une visite plus religieuse, ils peuvent s'adresser au rectorat de la cathédrale pour venir en pèlerinage. Ils peuvent assister à la messe, ils peuvent participer aux grands événements qui arrivent. On va avoir la messe chrismale le mercredi avant Pâques, on a évidemment toutes les célébrations du Triduum Pascal, et puis on aura le 21 juin les ordinations avec plusieurs prêtres et diacres qui vont être ordonnés pour le diocèse. Donc ça, c'est un peu notre agenda liturgique. Il y a aussi à la Pentecôte les confirmations, il y en aura le samedi, le dimanche, parce qu'il y a 400 adultes qui vont être confirmés, donc on est obligé de les répartir en plusieurs fois.
Et sachez aussi que à Meaux, dans le diocèse de Meaux, on va continuer à fêter la cathédrale, c'est-à-dire l'une des églises les plus anciennes de ce diocèse, mais qu'il y a aussi des nouvelles églises en construction et qui
ont les mentions. On construit deux églises, l'une à Chelles et l'autre à Val d'Europe, à Disneyland Paris. En fait, c'est très simple. Quand on va à Disneyland, il y a plein de gens qui vont passer une journée à Disneyland Paris. Et ben, c'est facile d'aller passer deux heures à Meaux pour visiter la cathédrale. Et à Meaux, il y a aussi une autre chose à faire, c'est visiter le musée de la Grande Guerre, qui est un très beau musée qui raconte l'histoire de la Première Guerre mondiale, puisqu'elle est venue jusqu'aux portes de Meaux. Oui. Et l'évêque de Meaux de l'époque, Monseigneur Marbeau, a tenu bon, alors que tout le monde était parti. Il a été l'autorité qui restait dans la ville, et les armées allemandes se sont arrêtées aux portes de la ville.
Merci beaucoup, Monseigneur de Lille. Je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Meaux. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis et qui pourront retrouver cet épisode, comme tous les autres de l'Église d'aujourd'hui, sur le site et l'application de RMC, mais aussi sur les réseaux sociaux du diocèse de Monaco. Merci beaucoup à David aussi, qui est à la régie, à la réalisation, pardon. Et qu'est-ce que je dois vous dire encore? Bonne nuit et que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, à bientôt.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.